Et ce matin, je veux le titre du message, c'est « Vivre le sabbat ou vivre le sabbat ». Et quand je dis « vivre », c'est « wouh ». Je suis excité, là, OK? Là, c'est ça, j'ai l'air. Ça n'a pas l'air de ça, mais c'est ça. Là. OK? Vivre le sabbat. Enfin, ça va arriver, le sabbat. C'est comme, il y a comme une joie de ce que, enfin, le sabbat. Puis bien sûr, le sabbat, il y a une dimension de repos ici. Il y a une dimension pour le sabbat ici. C'est, waouh, on a tellement hâte que la chose arrive. Je sais pas si pour vous autres, mais il y a des fois dans ma vie, j'ai hâte que quelque chose arrive. Par exemple, ça la chasse ou une activité ou une affaire ou même un dimanche matin ou autre, une rencontre d'hommes ou quoi que ce soit. J'ai hâte. Alors, c'est vivre le sabbat. Waouh, on a tellement hâte que ça arrive. Demain, enfin, le sabbat va arriver. Ou encore, il y a la dimension de vivre le sabbat chaque jour. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans le vivre ou vous êtes dans le vivre. Vivre, c'est-à-dire, j'ai donc hâte que ça arrive. Ou encore, vous dites, aujourd'hui, je vis dans ce sabbat-là, dans le repos. Maintenant, je vais apprendre à me reposer devant le Seigneur et avec le Seigneur. Les statistiques disent ceci, qu'il y a de plus en plus dans notre société de fatigue chronique et il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par une fatigue excessive. Et les gens les plus touchés sont les personnes entre 30 et 50 ans et les personnes les plus touchées dans ce groupe-là sont les femmes. Alors, lorsqu'on regarde ça, et dans la dimension, j'aurais pu mentionner certaines affaires par rapport à cette statistique-là, mais je veux pas le faire parce que c'est pas le but de ce matin, mais je veux juste qu'on comprenne. Mais en même temps, et ça, c'est une pensée, une réflexion de ma part, quand je regarde tout ça, où il y a de plus en plus de fatigue excessive, il y a de plus en plus de fatigue chronique dans notre société, où des gens sont touchés au niveau de la fatigue, pourtant, lorsqu'on réalise, on a tout autour de nous pour nous aider à ce que notre vie soit moins compliquée. Avant ça, les mamans, ils avaient tout le linge des enfants à main, avec la planche, puis le tordeur, puis les affaires. Aujourd'hui, on met le linge, pèse sur le piton, puis tout se fait de ça. Alors, on a de plus en plus de choses, la technologie, les affaires sont là pour nous donner du temps, mais on a de moins en moins de temps. Lorsque je lisais par rapport à ça, ils amenaient une pensée qui était celle-ci, ou plutôt, ils mentionnaient certaines fatigues, et ils disaient par rapport à cela qu'il y a une fatigue, et lorsqu'ils parlaient de fatigue, ils parlaient de fatigue physique, mais ils disaient qu'il y avait la fatigue mentale ou encore la fatigue nerveuse. Et je pense que c'est ce qui se développe, à mon avis, c'est ce qui se développe le plus dans notre société. Des gens qui sont fatigués intérieurement, dans leurs pensées, dans leurs êtres, dans ce qu'ils ont dans leur cœur et de tout ce qui peut prendre place à travers tout ça. Et lorsqu'on regarde cette fatigue-là, souvent on peut être gêné ou encore on peut penser que être fatigué, c'est pas nécessairement bien vu et de toute la dimension qui peut prendre place de venir devant le Seigneur. Et je vais en parler un peu ce matin, mais vous savez, lorsque je regarde la société, lorsque je regarde ce dans quoi on est toujours préoccupé par quelque chose. Notre pensée est toujours active par rapport à quelque chose. On est toujours préoccupé par une inquiétude. On a toujours trop de choses à faire. Ou encore, on a eu trop de choses à faire. On est stressé par les responsabilités de travail, stressé par les responsabilités familiales, de ce qu'un cours ici, l'autre cas, il faut penser. C'est pas juste d'aller mener l'enfant à l'activité, mais il faut penser de comment on va réussir à aller le mener à l'activité, parce qu'on a aussi autre chose en même temps qu'il faut gérer dans l'horaire, qu'il faut faire avec ça, et on est toujours dans une dimension. On devient anxieux à cause de nos finances, on devient anxieux à cause de l'argent, les situations. Comment on va arriver à payer tout ça? Comment on va arriver à financer ça? Comment on va arriver à payer cette affaire-là que nos enfants, que l'ami de mon enfant a cette affaire-là à la maison, puis que là, mon enfant aimerait en avoir un à la maison. Et là, ça amène toute l'anxiété de toute la dimension qui prend place de l'anxiété de vouloir répondre. Et en même temps, on n'a pas trop l'argent de le faire. Alors là, on se casse le bicycle de comment on va réussir à trouver l'argent dernière pour acheter telle et telle affaire, telle et telle chose. Et là, là-dedans, on dit comment on va réussir à trouver un temps pour essayer de se reposer, pour faire une activité. Puis là, on gère tout le mois pour essayer de prendre un lunch à quelque part, dans tout ça avec notre conjoint ou notre conjointe. Puis comment je vais pouvoir juste prendre un moment avec mes enfants? Parce que là, on court à la maison, on arrive. Puis là-dedans, il y a tout le ménage. Puis le travail dehors, puis la tondeuse, puis le pas content, puis la pression de tout ce qui prend place. On devient surchargé, anxieux, on devient surchargé par l'agenda qui était au maximum, qui est à plein. On vit toujours une pression, la pression de tout ce qui nous entoure, on se met de la pression, de la performance, de l'exigence, qu'il faut que ça soit plus vite, qu'il faut faire mieux les affaires, qu'on devrait être bon dans tout. Et là, on a l'impression qu'on porte le poids de toute l'humanité à l'intérieur, pas de nos épaules, mais dans notre pensée, dans notre conscience, et l'anxiété saisit nos cœurs. Dans notre société, on essaie de mettre tout en place en fonction de pouvoir trouver, et là, on se dit, vive, wouh! Vive le sabbat. On va y arriver. Ou on peut dire, aujourd'hui, je veux vivre le sabbat. Et j'aimerais vous poser la question, dans qu'est-ce que vous êtes ce matin? Dans le vivre ou le vivre? Il y a juste une lettre de différence. Mais je vais vous dire que ça change bien quelque chose. La lettre là, que vous ajoutez, ça change toute une vie. Ça nous donne de voir les choses bien différemment. Ce matin, ce que j'aimerais faire, dans tout le temps que je n'aurai pas le temps, je vais juste essayer de... On va regarder quelque chose ensemble, mais je veux juste dire rapidement certains textes, OK? Premièrement, ça dit dans 1 Pierre, la Bible est claire. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et ça, c'est tellement vrai. C'est surtout ce bout-là qu'on garde. Et dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, il y a un repos qui est là. Jésus est en train de nous offrir quelque chose. Il est en train de nous offrir quelque chose de quotidien. Viens à moi. Le texte ne dit pas qu'il faut que ça soit dimanche, il faut que ça soit samedi, de vivre le sabbat. Mais Dieu nous amène dans le vivre le sabbat. Le désir de Dieu, c'est de nous amener dans une dimension. Le Nouveau Testament nous amène dans la dimension de vivre le sabbat et non seulement vivre le sabbat. Alors, lorsqu'on regarde tout cela, Dieu veut nous amener à travers cette dimension-là. Et ce que j'aimerais faire ce matin, c'est regarder un texte ensemble et d'aller dans un texte de verset par verset, ou plutôt prendre certains versets dans ce chapitre-là et regarder certaines pensées de quelqu'un qui probablement a vécu la même dimension que peut-être certains d'entre nous vivent, ou encore que certaines situations peuvent prendre place à l'intérieur de nos vies. Et je vais vous parler ce matin, alléluia, d'Élie. Dans le 1er roi, chapitre 19, verset 1, il nous est parlé de cet homme, Élie, qui va vivre une situation à l'intérieur de sa vie d'une fatigue ou extrême, et je dirais à ce moment-là où il y a une dimension à l'intérieur de sa vie qui prend place. Pourtant, c'est un grand homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu qui a vu les miracles, les prodiges de Dieu, il a vu le feu de Dieu descendre et tout ça. Et là, il se retrouve alors que toute la gloire était là. Il y a une femme du nom de Jézabel qui était la femme du roi Achab. Et là, elle va dire quelque chose à Élie. Elle va dire ceci, Jézabel envoya un message à Élie. Alors, mais je vais vous dire, c'est pas un texto, là. C'est pas, mais il y a quelqu'un qui est parti à la course. Puis il a dit, je vais aller dire une nouvelle à Élie. Puis quand il est arrivé à Élie dire la nouvelle, c'était pas une bonne nouvelle. La nouvelle, c'est « Tu vas te faire tuer, Élie. » Mettons que ça a un petit impact dans la vie de quelqu'un. Là. Mettons que ça l'amène une petite pression à l'intérieur de ta vie à travers ça. Pourtant, lorsque tu regardes ça, lorsque tu lis ça, tu découvres, et ça dit au verset 3, verset 2, « Jézabel envoya un messager à Élie pour dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie » ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartenait à Judas. Et il laissa son serviteur pour lui, et il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » J'ai l'impression que probablement ce que cet homme-là est en train de vivre à ce moment-là, plusieurs fois à l'intérieur de nos vies, on vit cette dimension-là de dire « c'est assez ». Là. C'est, on ne peut plus emporter, on arrive à un extrême, on arrive à une dimension qui est là. Et lorsque tu regardes ce texte-là, pas David, mais Élie avait vu la gloire de Dieu, le feu de Dieu descendre, vous pourrez le lire, le texte auparavant à la maison, l'Holocauste, il y avait les 400 prophètes de Baal qui faisaient des incisions pour être capables de ce que le feu descende pour consumer leur Holocauste, mais jamais rien s'est passé. Mais alors qu'Élie est là, fait avancer le peuple, demande à Dieu que le feu descende, puis le feu descend, consume littéralement tout le taureau qui est là, même l'eau, parce qu'il avait rendu les choses plus difficiles pour aller. Et là, il voit la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on regarde dans ce texte-là, il y a quelque chose qui a pris place dans la personne d'Élie. Et là, on peut dire c'est la fatigue de tout avoir fait les affaires. Mais je crois qu'il y a aussi d'autres pistes que ce texte-là nous donne de réaliser. Premièrement, le texte dit ceci au verset 3, ça dit quand qu'Élie voyant cela, et le mot ici, quand ça dit Élie voyant cela, le mot ici pour voyant, c'est rare. Et souvenez-vous de ça, parce que dans le texte, il y a deux regards, mais c'est deux regards différents. Et trop souvent, dans les dimensions de ce qui prend place autour de nous, c'est ce mot-là qui prend place, voyant, rare. Et le texte dans le mot hébreu, rare, veut dire voir, regarder, examiner, inspecter. Il y a comme une dimension d'un arrêt dans notre personne où là, c'est ce qui tourne constamment à l'intérieur de notre pensée et de notre tête. Cette nouvelle-là qu'Élie vient d'avoir, c'est dit, il voyant. Et là, comme je dis encore, le mot voir, c'est le mot vraiment sonder. Il y a une dimension d'examiner, de quelque chose qui fait pas juste une parole qui dit, puis dans cinq minutes, tu t'en souviens pas, mais ça reste dans ton cœur. Puis là, ça commence à tourner, ça commence, et là, ça l'amène à saisir la frayeur, l'inquiétude, la dimension de peur qui prend place à l'intérieur de ta vie. Et c'est ce qui est arrivé dans la personne d'Élie à ce moment-là, le serviteur, plutôt Élie, le serviteur de Dieu et celui qui est là. Et là, ça l'a pris place. Et trop souvent, c'est de cette manière-là qu'on regarde les choses. Il a vu les affaires. Et dans l'idée du texte de voir, il y a la dimension qu'à travers cet arrêt-là, il y a une peur, une crainte qui a saisi son cœur, qui a pris place à l'intérieur de sa vie. Et trop souvent, c'est de cette dimension-là. Et si on n'apprend pas à se sortir de ça, ça va nous amener dans des dimensions. Le plus grand problème, je vais vous dire ceci, ce n'est pas l'agenda. Moi, je vais vous dire, si Dieu me donnerait dire, je te donne le pouvoir sur quelque chose, que tu as le pouvoir pleinement. Je vais vous dire que mon choix serait dans 30 secondes, je suis décidé. Donne-moi la capacité d'arrêter le temps ou d'avancer le temps. Puis je viens de l'homme le plus puissant sur terre. Puis probablement, les choses à travers les situations n'iraient pas mieux. Ça n'irait pas mieux. Le problème n'est pas l'agenda. C'est ce que l'agenda fait en nous. C'est ce que les choses font en nous. En même temps, Dieu nous demande d'être maître de nos agendas. Dieu est celui qui nous donne de vouloir gérer. Mais à travers ce moment-là, il y a une dimension et il y a quelque chose qui est intéressant parce que le mot ici de voir dans la dimension du Nouveau Testament, il y a un endroit un peu semblable que l'on retrouve cette même dimension-là qui a pris place dans le cœur d'une personne dans un instant. Ça ne prend pas des heures, des jours. Mais dans un moment, ça a un impact. Et le texte que je vous parle, c'est de Matthieu. Alors, dans Matthieu, chapitre 14, le verset 30. Alors que Pierre, ils sont dans la barque, et là, il y a une tempête, Jésus s'avance, puis là, il pense que c'est un fantôme. Puis là, ça dit à ce moment-là, Pierre dit, si Jésus, c'est toi, qui est là, demande-moi, ou plutôt dis-moi d'aller te rejoindre. Et dans le texte, ça dit au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Alors, le mot « voir » dans le texte ici, c'est la même pensée que le texte avec Élie. Il y a une dimension dans ce qu'il a vu, a pris place et a eu un impact. Il a commencé à examiner le vent. Il a commencé à examiner ce qui prenait part. Dans un moment, là, ça se fait rapidement. Et à l'instant, la peur et la crainte ont saisi son cœur. Et à ce moment-là, c'est ce qui a fait que Pierre était en train de couler puis qu'il a demandé au Seigneur de le saisir. Vous savez ceci? Lorsqu'on regarde ça, on a besoin d'examiner, de réaliser quelle place ça prend, est en train de prendre à l'intérieur. Qu'est-ce que ce matin, quel est ce que vous voyez qui a un impact à l'intérieur de votre cœur, qui vous amène dans une fatigue, qui vous amène à être anxieux, qui vous amène à avoir une pression? Quelle est la chose dans votre vie qui vous amène dans cette dimension-là, qui peut-être vous avez besoin de prendre autorité puis de dire à partir d'aujourd'hui, je vais demander la grâce de Dieu et l'aide du Seigneur pour être capable de le faire, d'accomplir et de permettre à Dieu de me changer par rapport à cette dimension-là. Et on a besoin de cela. On a besoin de saisir cette chose-là à l'intérieur de nos vies. Autre chose que je veux partager par rapport à ce texte-là, c'est au verset 3 de 1 Rois chapitre 19. C'est dit, « Élie, voyant cela, se leva et alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartenait à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. » Il y a une dimension dans la vie de cet homme-là qui dit, « Je suis arrivé au bout, là. » Il demande la mort, il n'est pas sur le point de mourir. Comprenez-moi bien, là. Sa santé est bonne, il n'est pas dans une dimension. Alors, on se pose la question, où il est arrivé au mur? À quel endroit dans sa vie il est arrivé à ce mur-là? C'est pas son corps, c'est quoi? Son esprit, sa pensée, sa tête. Quand il est arrivé là, c'est pas parce qu'il pouvait plus faire un pas de plus, mais que dans sa tête, c'était rendu, c'est fini. Je peux pas aller plus loin. Et dans cette dimension-là dans laquelle il se retrouve, il marche jusque-là, le texte dit, je vais y arriver un peu tantôt, mais il va laisser son serviteur, parce que le prophète souvent avait quelqu'un qui était avec lui pour l'aider dans toutes les responsabilités dans lesquelles il avait affaire. Il va laisser son serviteur-là, puis lui va marcher pendant un jour de marche tout seul, puis pendant qu'il fait la marche, à un moment donné, il s'assit sous un genêt. Un genêt, c'est pas un grand arbre, c'est comme un genre de petit arbre d'arbuste dans lequel il s'assoit, ou en dessous duquel il s'assoit, ou là, qui est là. Puis là, il dit, Seigneur, c'est fini, là. À ce moment-là, ça dit, il s'assit sous le genêt et demandait la mort. Dans sa pensée, il était plus préférable de mourir que de continuer. Il n'y avait plus de possibilités qui prenaient place à ce moment-là. Il y a des moments dans nos vies où on semble qu'on ne peut plus aller plus loin, qu'on arrive dans la dimension, dans notre pensée, où la fatigue, la pression, les choses qui prennent place, on est rendu trop loin et on ne peut plus aller plus loin. Et Seigneur, on fait juste dire, c'est fini. On perd tout espoir, toute espérance, toute possibilité de ce que quelque chose peut changer, de ce que quelque chose peut s'améliorer, parce qu'on pense qu'on est tellement pris dans ce cercle-là, les choses ne semblent pas changer. Et à travers ce moment-là, on a besoin d'être capable de venir devant le Seigneur. Parce que lorsque tu es là, au verset 3, ça dit, Élie voyant cela se leva. Il y a une pression, il y a l'impression que les choses ne donnent plus rien. Il dit à la fin du verset 4, il dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il est en train de dire quoi, là? J'ai pas réussi ce que mes pères n'ont pas été capables de réussir, eux autres non plus, là. Qui était quoi? D'amener Israël à la repentance. Qu'il y ait un changement. Lorsque vous lisez juste avant le chapitre 19, le chapitre 18 et tout ça par rapport à l'Holocauste, vous allez voir que le peuple d'Israël était ambivalent à servir Dieu ou pas servir Dieu. Il avait élevé des autels à Baal, des idoles à Baal, ils offraient des sacrifices à Baal et tout ça. Et là, il y pensait, ou plutôt pas pensait, mais il avait été mandaté pour aller de proclamer au peuple et d'amener le peuple. Et ils ont vu le miracle de Dieu. Mais après même le miracle de Dieu, la solution, ou plutôt ce qui lui est fait, c'est pas « Bravo, Élie, tu as réussi mon homme, je suis tellement fier de toi. » C'est « On va te tuer. » Mais semble, c'est tu fêtes pas longtemps, là. Semble, la fête est pas longtemps. Mais lorsqu'il se retrouve là, il dit « C'est assez. Ce que j'ai pas réussi, ce que mes pères ont essayé de faire, c'est assez. Il y a plus le but de sa vie, du retour d'Israël à Dieu, n'est plus dans sa pensée de ce qu'il pourrait revenir. C'est comme s'il y a une dimension qui n'a plus de possibilité. Encore là, je veux te dire, mon frère, ma sœur, quelle est la chose, la dimension dans ta vie que tu penses pour laquelle il n'y a plus de possibilité? Sous quel genêt es-tu assis ce matin, mon frère, ma sœur? Si probablement il y a une dimension qui a pris place à l'intérieur de ta vie, il est très possible qu'à un moment donné ou à un autre, tu te retrouves assis sous un genêt et que dans ta pensée, il n'y a plus de possibilité que les choses changent. Ça ne changera pas avec mes enfants. Ça ne changera pas avec ma conjointe. À mon travail, ça ne pourra pas aller mieux. Dans ma vie, il n'y aura jamais la délivrance. Dieu ne pourra jamais, ou Dieu ne le fera jamais. Ça fait tellement longtemps pour lequel je le prie, puis les choses ne changent pas. Je suis juste en train de dire ce qu'Élie est en train de dire. Et c'est souvent ce que le diable lui-même veut nous dire. Qu'il n'y a plus de possibilité, que les choses ne peuvent plus changer. Et à ce moment-là, on fait juste arriver dans la dimension d'un certain abaissement de nos propres vies. On n'est pas meilleur que les autres. En fait, je vais vous dire ceci, Élie avait raison. Il n'était pas meilleur que ses pères. Mais en fait, la réalité de la responsabilité ne reposait pas sur ses épaules, toutes sur ses épaules à lui. Sa responsabilité était d'accomplir ce que Dieu lui demandait de faire. Le résultat des choses appartenait à Dieu. Il y a tout le poids que l'on a d'être productif au travail, des responsabilités, des choses, d'être un bon père, une bonne mère, de faire que les enfants aillent bien, que tout le monde puisse bien aller, que tout le monde puisse bien se passer, que toutes ces choses, les finances aillent bien. Puis il faut que tout roule à merveille. La réalité, c'est que tout ça peut amener une pression. Et on pense que lorsqu'il arrive une situation, je ne suis pas meilleur qu'eux ou j'y arriverai pas qu'eux. Mais la réalité, c'est que Dieu est avec nous autres. Et le Seigneur, alléluia, est celui qui entreprend. Et j'aimerais nous dire que l'une des solutions à travers ces moments-là, commence à voir ce que Dieu a fait. Commence à voir ou te rappeler ce que Dieu a accompli à l'intérieur de ta vie. Il y a des fois où on a besoin de prendre un crayon, un papier, puis de commencer à juste écrire ou notre ordinateur, puis de commencer à inscrire ou notre cellulaire, et de commencer à inscrire toutes les bénédictions que Dieu a fait dans les derniers jours, dans les dernières semaines, dans la dernière année. Comment on a vu la main du Seigneur entreprendre à travers, comment fois Dieu a-t-il entrepris? Comment le Seigneur a-t-il agi à travers tout ça? Il y a un texte dans la parole, alléluia, qui dit au verset 5, lorsque Dieu va intervenir, que le Seigneur va se révéler à lui, il y a un texte qui dit ceci dans 1 Roi 19:5, ça dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Je vais juste vous dire ceci. Je suis content que Dieu ne m'écoute pas tout le temps, moi. Parce que ce gars-là serait mort. Il y aurait juste puis une petite affaire écrasée sous un genêt. Fini. Ça aurait été triste, là. Un homme mort seul sous un genêt. Je suis content que Dieu ne nous écoute pas tout le temps. Que Dieu ne fasse pas toujours ce que je demande. Que Dieu n'accomplit pas les choses toujours comme on voudrait qu'il le fasse. La Bible dit que cet homme-là, alléluia, a tombé endormi. Et juste commencé à s'endormir et alors qu'il est là, le texte dit, « Et voici un ange le toucha. » Il y a eu la main de Dieu, il y a un ange qui le touche là, de la part du Seigneur, qui le touche, il dit, lève-toi et mange. Et là, le verset 6 dit, il regarda. Et le mot regarda ici, ce n'est pas le même mot hébreu que tantôt, c'est naba, qui est voir ce que Dieu a fait. Ici, c'est pas commencer à l'autre mot ça aurait été dans cette dimension-là de commencer à, lorsqu'il a vu ce qui avait été là, ok, le gâteau cuit, s'il aurait eu le regard comme l'autre, ça aurait été, comment ça, il y a un gâteau-là? Ben là, ce gâteau-là, il n'y a pas d'affaire là. Il ne doit pas être bon à manger, ce gâteau-là. Là. On ne sait pas qui l'a fait. On ne sait pas depuis combien de temps qu'il est là. Je viens de me faire réveiller. Ça fait-tu deux jours que je dors, puis là, le soleil a frappé dessus, puis je vais être malade après. Ça, c'est l'autre regard de tantôt. Là. Le regard ici, et c'est souvent ça qu'on fait, est-ce qu'on est d'accord? C'est souvent ça, là. Je m'aurais réveillé, j'aurais dit, voyons, il y a un gâteau là, il n'était pas là quand je tombe endormi. Il est-tu bon encore? Je l'aurais senti probablement. Peut-être goûté, je sais pas. Mais là, le texte dit qu'il l'a regardé. Le mot regarder, c'est, OK, c'est juste voir. Ah, je vois qu'il y a un gâteau là. L'ange, je mange. J'ai juste vu la bénédiction de Dieu. J'ai juste vu, j'ai pas commencé à me questionner pendant 15 minutes, mourir de faim. parce que j'avais trop de questions. J'ai juste vu, j'ai regardé et j'ai mangé. Et à ce moment-là, ça dit, il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées. Le mot, c'est regarder, voir. C'est apercevoir et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et dans le texte ici, dans Michée chapitre 6, verset 5, ça dit, « Mon peuple, rappelle-toi, souviens-toi. » Et là, il y a ce que projetait, puis là, ce qui avait été fait pour faire du mal. Et ça dit à la fin du texte, de pas dire tous les noms, là. Ça dit, « Afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. » Est-ce que ce matin, on peut reconnaître les bienfaits de l'Éternel? Mon peuple, rappelle-toi, souviens-toi, déclare, reviens, déclare, dis, et rappelle-toi afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Dans Psaume, d'ailleurs, dans une des vidéos, je vais en parler dans l'autre semaine, c'est celle que vous allez avoir cette semaine, dans les bontés de Dieu, ça dit, Psaume 36, verset 8, « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! » C'est un trésor. Les bontés de Dieu est un trésor à l'intérieur de nos vies qui prend place à l'intérieur de nos vies, de nos cœurs, à travers les situations dans lesquelles on se retrouve. Déclarez les bienfaits, les bontés de Dieu. Rappelez-vous, rappelons-nous toutes ces bontés-là dans lesquelles Dieu nous donne et que l'on puisse avoir le regard. Alléluia. D'Élie, lorsqu'il a vu le gâteau, on fait simplement voir, considérer la bénédiction, non pas commencer à questionner un paquet d'affaires, mais de juste rendre grâce à Dieu pour ce gâteau qu'il a mis à nos côtés, qui va nous nourrir, qui va nous faire du bien, qui va nous restaurer. Et alléluia, à travers cette nourriture-là, il y a une dimension qui va le rendre capable, ce qu'aucune personne ou aucun mets ou quoi que ce soit ne pourrait le rendre capable. Ça dit verset 6, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Alors, il y a une dimension qui a besoin d'un accomplissement. Rappelons-nous qu'Élie était parti par peur, par crainte. Et lorsqu'il se retrouve là, dans cette dimension-là, à ce moment-là, Dieu dit, « Élie, te suis un chemin. Maintenant, j'en ai un, moi, pour toi. Maintenant, j'ai une route sur laquelle je vais t'inviter à marcher. Cette route-là est celle qui va faire une différence à l'intérieur de ta vie. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » À ce moment-là, c'était un chemin que Dieu seul pouvait le rendre capable d'y marcher. C'était en fait de marcher, alléluia, et ça dit au verset 8, « Il se leva, marcha et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu Horeb. » Cette nourriture-là, la bénédiction de Dieu lui a donné la capacité de faire ce que, humainement parlant, marcher 40 jours, 40 nuits. Lorsqu'on regarde cette dimension-là, alléluia, on a besoin, il y a un chemin. Il y a une dimension de miracle. Ce chemin-là, dans les environs en ligne directe, entre l'endroit où il était et se rendre à Horeb, il y avait à peu près 280 kilomètres à marcher. Là, c'est pas sur l'asphalte clean cut puis avec l'air conditionné. OK? Le soleil, le jour, la nuit, pas toujours chaud. OK? Les sandales avec du sable entre les orteils. La game, OK, là? 280 kilomètres. Alors, soit qu'on chiale tout le voyage, ou on peut voir le voyage comme une bénédiction. Et c'est là la différence, là. Moi, si tu me dis 280 kilomètres à marcher, je suis pas sûr que je vais être un homme content. Je suis pas sûr que je vais être fier de ça. Une ride de voiture, une ride de moto, un tour de bateau, une shot d'avion, je suis swell là-dedans. Puis nous autres, c'est pas dans n'importe quelle voiture, il faut qu'elle aille la climatiser. Il faut que le confort. Et on a besoin des fois de réaliser qu'on a besoin de prendre le temps. Dieu est en train de l'amener dans une dimension de prendre le temps. On va voir une vidéo dans comment on va vivre les affaires dans le temps de ce qui est là. Alors, tu peux être assis dans une belle voiture, avec une décapotable, profiter du soleil de la journée, puis ça peut ne pas aller assez vite. Mais à travers ça, on a besoin de prendre le temps de dire, ben, c'est une belle journée, peut-être qu'elle pourrait marcher un peu plus vite. J'ai l'impression que j'aurais probablement été cet homme-là. Mais on a besoin d'apprendre à prendre le temps, puis de réaliser la bénédiction dans laquelle on est. Je vous dirais ceci, alléluia. J'aimerais probablement mieux être dans la voiture que d'être devant la voiture. Mais la réalité, c'est que c'est pas l'endroit qui change le contentement de là où on est. C'est qu'il y en a un qui est pas content parce que ça va pas assez vite, puis l'autre est pas content parce que lui voudrait aller plus vite. Dans la dimension de nos vies, on a besoin d'apprendre à vivre le temps, puis le moment, les 40 jours, les 40 nuits, sont un moment, alléluia, de recueillement, un moment de méditation, de prière, de changement pour sa propre vie, d'intimité avec Dieu, de relation avec Dieu. Il reçoit un repas qui va lui donner le rang, qui va le rendre capable de prolonger, qui va le fortifier. Chaque pas devenait, alléluia, le miracle de Dieu, de la puissance de Dieu, de la capacité de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Alors qu'avant ça, il s'est arrêté sous un genêt. Puis au bout d'une journée, c'est « Seigneur, je ne suis pas mieux que mes pères, alors fais juste me donner la mort. » Mais là, 40 jours et 40 nuits, et on a besoin de cela afin que Dieu parle à nos cœurs. Ça dit dans Osée, chapitre 2, verset 16, c'est pourquoi « Voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Je pense que ces 40 jours, ces 40 nuits étaient un moment où Dieu voulait se révéler, un moment dans lequel le Seigneur était celui qui voulait accomplir. On peut se poser la question, pourquoi aussi loin Dieu aurait pu le faire? Fais un kilomètre, puis je vais faire tout ce que je devais faire après, là. Mais Dieu est celui qui fait les choses de la bonne façon. Lorsqu'on regarde la montagne de Dieu à Horeb, on peut dire lorsqu'on se regarde, on regarde cette dimension-là, alléluia, on se retrouve devant ce moment-là et on a besoin d'apprendre, alléluia, à simplement placer, de commencer à voir ce que Dieu veut que l'on puisse voir. Ça dit, tu vas aller, tu vas marcher jusqu'à la montagne de Dieu. Cet endroit-là dont Dieu appelle Eli, c'est quoi cet endroit-là? C'est l'endroit de Dieu, c'est pas le sien. Le genêt, c'était son endroit. Horeb, c'est l'endroit de Dieu. Le texte est très clair. Il dit jusqu'à la montagne, pas d'Élie, mais à la montagne de Dieu, à Horeb. Alors, il y a des dimensions dans lesquelles, à l'intérieur de nos vies, on a besoin de faire attention. Et là, on peut être de ceux qui s'agitent, qui s'inquiètent, qui, pendant le voyage, dans toutes les affaires, mais on a besoin de se reposer. C'est-à-dire, on a besoin de faire des choix pendant ce voyage-là. Peut-être que tu es rendu où tu as besoin de faire des choix, de mettre des choses, des priorités de ce qui est en avant, dans la direction dans laquelle Dieu t'appelle à faire et à marcher. Dans Luc, chapitre 10, verset 41, le Seigneur va dire, alors que Marthe s'inquiétait pour toute la nourriture, toutes les affaires, le Seigneur va dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et ça, c'est une réalité dans notre société. On s'inquiète pour tellement d'affaires. On s'inquiète pour nos finances, on s'inquiète pour nos vêtements, on s'inquiète pour les enfants, on s'inquiète pour notre mari, pour notre femme, pour l'église, pour les affaires, pour le voisin, puis les choses, puis le voyage, puis de comment on va être à 65 ans, puis quand on va prendre notre retraite. Puis donc, on est dans toute une game qu'on s'inquiète tout le temps. Dis-tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais je veux juste attirer notre attention sur quelque chose. Elle s'inquiète pour beaucoup de choses, mais il y avait une chose à faire dans ce moment-là. Ça se peut-tu que des fois, on soit trop multitâche? Peut-être que des fois, là, je suis pas capable de penser à trop de choses en même temps. Peut-être juste la bonne serait la bonne affaire. Puis peut-être, si on fait juste se préoccuper de la bonne, on s'inquiétera pas comme Marthe faisait à ce moment-là. Et ça dit dans le texte, Marie a choisi la bonne part, ce qui était le principal à ce moment-là. Il dit qu'on est en train de comprendre que Dieu l'appelle. Vous savez, lorsqu'on regarde les choses à première vue, on peut penser que c'est pas nécessairement un bel endroit, parce que le mot Horeb veut dire désert, sécheresse. Si tu t'arrêtes au nom de là où Dieu t'appelle, tu n'as pas le goût de trop d'y aller, là. Mais il faut comprendre ceci, c'est qu'Horeb, c'était pas seulement Horeb. Horeb, c'était le mont Sinaï. Et là, c'est autre chose. Le mont Sinaï, c'est l'endroit où Dieu s'est révélé à Moïse. C'est l'endroit où il y a la révélation de Dieu. C'est l'endroit où le miracle de Dieu va prendre place. Et il va se retrouver là. Et lorsqu'il va se retrouver à cet endroit-là, alléluia, Dieu va poser, il va l'amener jusqu'à Horeb. Il va entrer dans une caverne, il va se coucher encore là. Il va passer la nuit. Ça dit, voici la parole de l'Éternel. Je ne sais pas s'il va se coucher, mais ça dit qu'il a passé la nuit. OK, on va être juste par rapport à travers tout ça. Et là, et ça dit, et voici la parole de l'Éternel, lui fut adressée en ces mots. Puis tu sais, de temps en temps, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mettons quand je prends un temps avec le Seigneur, puis j'aurais le goût d'une parole de Dieu, là. Il me semble que j'en voudrais une vraie, là, tu sais, une super grosse, une affaire là, importante qui va tout changer ma vie. Pas me faire poser une question. Que fais-tu ici? Seigneur, tu peux-tu me dire autre chose? Il me semble que j'aurais le goût d'entendre autre chose, Seigneur. Une vraie déclaration de comment t'es grand, de comment tu vas tout accomplir, puis de comment le peuple de Dieu va changer. Mais Dieu se révèle à lui et va dire, que fais-tu ici? Je pense que Dieu est en train d'amener Élie à comprendre là où il est et pourquoi il devrait être là. Et à ce moment-là, dans le texte, on découvre comment Élie va mentionner certaines choses. Il dit, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Et là, il va dire, ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul. Puis là, il cherche à m'ôter la vie à moi tout, là, moi aussi. Là. Ce que Élie est en train de dire, c'est la raison pour laquelle je suis ici, Seigneur, c'est qu'il n'y a rien qui a marché. Tout ce que j'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Puis ils cherchent eux aussi à moi comme à m'ôter la vie à l'intérieur de tout ça. Les choses n'ont pas fonctionné. Mais la réalité, c'est que Élie était là parce que Dieu l'avait appelé à Horeb. Parce que Dieu voulait se révéler à lui d'une façon particulière. Et là, dans le texte, vous pourrez lire toute la dimension de ce texte-là. Et là, alors qu'il est là, alléluia, Élie va répondre. Et la beauté de la chose, c'est qu'Élie va répandre son cœur. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre, ne commencera pas à dire quelque chose qui semble à son tour être si spirituel, puis Seigneur, parce que je t'aime. Mais la réalité, c'est que j'ai c'est pas ça, là. C'est que je suis parce que je me sauve, là. Seigneur, je suis juste là, là, pour venir me. Parce que je veux me sauver, là. Parce qu'ils veulent et en veulent à ma vie. Et lorsqu'il se retrouve, je vais aller rapidement, alors qu'il se retrouve là, Dieu va se révéler à lui. Et le Seigneur va se révéler, vous pourrez lire le texte. Et là, lorsqu'il se retrouve devant cette dimension-là, de ce texte-là, le Seigneur va montrer sa gloire. Dans le verset, chapitre 19, verset 11, il dit, l'Éternel dit, sors et tiens-toi. Dieu dit, je vais te montrer ma gloire, là. Je veux juste vous dire ceci. Ce qui est en train de prendre place sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï, c'est pas la première fois que ça se passe. C'est ce que Dieu avait fait avec Moïse. C'est ce que Dieu avait fait avec Moïse dans Exode chapitre 33. Dieu va faire avec Élie ce que Dieu avait fait avec Moïse au même endroit. En fait, Dieu avait amené Élie pas par hasard à cet endroit-là, mais dans une révélation que déjà à cet endroit-là, il y avait eu. Et lorsqu'il se retrouve, ça dit, bon, le vent et tout ça, toute la dimension, ça dit, voici l'Éternel passa devant, et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchira les montagnes, il y a tout ça. Après ça, il y a eu un vent qui fut, il y a eu un tremblement de terre, il n'était pas dans le tremblement de terre, et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre cette parole. Que fais-tu ici, Élie? Il y a toute la gloire de Dieu qui est dans la place, là, où Élie prend son manteau puis se cache par crainte ou respect. Puis là, la question lui est posée encore. Et lorsqu'on regarde dans ce texte-là, Moïse va avoir dans la dimension, et quand Dieu va se révéler à Moïse, dans les deux textes, vous pourrez lire dans Exode 33 puis les suivants, c'est que Moïse va avoir eu les tables de la loi. Et quand on va redescendre en bas, il va briser les tables de la loi et va remonter sur la montagne. Et Dieu va lui donner les tables de la loi. Mais à ce moment-là, Moïse se pose la question. Maintenant, Seigneur, il arrive quoi avec moi? Qu'est-ce qui arrive avec ma vie, Seigneur? Vous lirez le texte? C'est ça. C'est comme si dans la vie de Moïse, il y a besoin d'une direction de ce qui va prendre place. Et Dieu va montrer sa gloire à travers la question de Moïse qui se retrouve là. Et c'est la même situation qui est en train de prendre place envers Élie. Dieu se révèle à lui et le texte dit que c'est dans un murmure doux et léger. Dans ce texte-là, l'idée d'un murmure doux et léger, c'est un son de silence, quelque chose à peine ou très peu perceptible. Il n'y a pas quelque chose qui est là dans une dimension de feu, tremblement de terre, de tout le kit. Le texte dit que c'est dans un doux murmure. Et à ce moment-là, Dieu est celui qui monte et Élie comprend que dans ce doux murmure, il y a la présence de Dieu, il y a le calme de Dieu. C'est ce qui va le rassurer par rapport à ce que lui... Rappelez-vous, avant, dans quoi Élie avait-il vu la gloire de Dieu avec les 400 prophètes de Baal? Pardon? Dans le feu qui est descendu du ciel, puis là, c'était, imaginez-vous la scène de 400 prophètes de Baal qui, le matin, là, juste quelques heures avant, se faisaient des incisions, le sang allait de partout, puis tout ça, parce qu'ils voulaient que ces hommes, ils voulaient que le feu descende. Il y a le tremblement de terre, le feu, les choses sont là, là. Puis dans ce moment ici, c'est Élie. C'est, je ne suis pas seulement dans tout ça, là, mais je suis aussi dans ce qui est doux et léger. Et frères et sœurs, on a besoin de découvrir Dieu dans ce qui est doux et léger à l'intérieur de nos vies. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va terminer dans un instant. Lorsqu'on regarde dans ce texte-là par rapport à Élie, alors que Dieu va lui demander, après cette gloire dans laquelle il va savoir retrouver, Dieu va dire à Élie, Élie, qu'est-ce que tu fais vraiment ici, Élie? Élie va dire la même chose. Élie va dire la même affaire. Je suis ici parce que mes pères, parce que je suis pas meilleur, parce qu'il va dire la même dimension dans son cœur. C'est étonnant que ce qu'il a vu n'a pas changé la dimension qui était là à l'intérieur de son cœur. C'est comme si, me semble, à ma pensée, à moi, humainement parlant, je me dis, me semble la réponse aurait dû être différente. Même la question aurait dû être différente. Mais Élie va dire la même chose à la même question, Élie va répondre la même chose. Il semble que dans lequel il se retrouve là, Seigneur, qu'est-ce que? Je suis ici parce que mes pères, parce que... Mais Dieu amène Élie dans une dimension où maintenant, sa vie a été changée. Sa vie a été fortifiée. Et là, Dieu va lui dire au verset 13, chapitre 19, quand Élie l'entendit, je jouais quelque chose de doux au piano, peut-être le dernier chant de ce matin, au piano. Ça dit, quand Élie l'entendit, il ne semble pas le visage et de son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée, là, que fais-tu ici? L'Éternel lui dit, après avoir qu'il lui a dit, il a répondu, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu. Seigneur, j'ai tout fait ça pour toi, j'ai voulu te servir. Mais la fatigue m'a saisi. J'y ai pas arrivé, même si mon désir était bon. Je découvre que la vie de cet homme, est-ce que Élie servait Dieu? La réponse, elle est oui. Élie servait de son cœur, de tout son cœur. J'ai pas de doute que vous servez Dieu à chaque jour dans votre maison, à votre travail. Que ce que vous le faites pour le Seigneur. Mais la fatigue, l'anxiété, la pression prend place à l'intérieur de nos cœurs, comme dans la vie de Élie qui a vécu toute la pression des 400 prophètes de Baal, toute cette situation-là de Jézabel, qui dit pas félicitations, Élie, on vient voir la gloire de Dieu, mais si demain à 7 heures, t'es pas mort, que tous les dieux, pas seulement ton Dieu, mais que tous les dieux te traitent dans toute cette rigueur. Toute leur rigueur. Il s'en va, s'assit, il fuit. Et dans sa fuite, se retrouve sous un genêt. Tu es assis où, mon frère, ma soeur, aujourd'hui? Où es-tu assis? Et la beauté de ce texte est ceci. Ça dit pas que c'est Dieu qui l'a amené là. Ça dit que c'est lui qui l'est allé. Dieu est au contrôle de tout, bien sûr, mais et c'est lui qui l'a fait. Je veux juste vous dire, alléluia, que là où était Élie, ça l'a pas empêché Dieu de se rendre à cet endroit-là. Je veux dire, mon frère, ma sœur, que là où tu es assis, Dieu va se rendre où tu es. Et Dieu va vouloir t'amener à Horeb, à sa montagne, à son endroit, afin de vivre quelque chose avec lui. Et à ce moment-là, la vie de cet homme a été changée. Le texte dit que Dieu va lui donner un mandat. Alors qu'il est là, Dieu va lui donner un mandat qui est celui-ci. Ça dit, l'Éternel dit, va, reprends ton chemin dans le désert. Continue, fais ce que je te demande jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils pour roi d'Israël. Et tu oindras Élie, fils de, pour prophète à ta place. Dieu est en train de dire, Élie, toi tu penses que t'es pas meilleur que tes pères. Je veux dire, Élie, que le travail est pas fini, mon Élie. Que Dieu va te donner, que je vais te donner la grâce, que tu vas accomplir. Tu vas oindre des rois. Tu vas oindre un prophète. Il y a un homme du nom d'Élisée, alléluia, qui va faire, qui va accomplir, qui a des miracles, qui va prendre place. C'est pas terminé, Élie. Je veux dire, mon frère, ma sœur, ce matin, que là où tu es assis, sous un genêt, c'est pas terminé. Peut-être que tu as besoin de refaire un ménage dans tes affaires. Peut-être que tu as besoin de la grâce de Dieu. Peut-être que tu as besoin que le Saint-Esprit te parle par rapport à certaines choses, de remettre dans des directions. Et je veux dire que dans là où tu es, Dieu est avec toi. Alors, ce que Dieu nous appelle, c'est ceci. Avec la mort de Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus est notre sabbat. Que Jésus-Christ est notre repos. Et ce sabbat-là, nous l'avons pleinement en lui. Ce repos, on peut l'avoir en Jésus-Christ. On a besoin de garder notre focus sur Jésus. On a besoin, alléluia, de prendre le temps avec celui qui nous donne le repos, comme Dieu a amené Élie à prendre un moment avec lui, à redéfinir qui il était, son service, son accomplissement à l'intérieur de sa vie. Et de faire ce qu'il nous demande, et le reste, apprendre à le laisser entre ses mains, à se décharger sur lui de tous nos soucis. On a besoin de revenir à ce que Dieu nous demande dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire de décharger-vous. Sous le genêt, au lieu de demander la mort, là je parle d'être à la fin, épuisé, d'être fatigué de cette pression-là. Décharge-toi sur lui. Ouvre ton cœur. Sois vrai comme il l'a été envers son Dieu. Je vais vous dire que sous ce genêt-là, ce n'est pas le super prophète qu'on retrouve. C'est pas l'homme qui a tué les 400 prophètes de Baal et qui a fait descendre le feu du ciel qui est assis sous ce genêt-là. Trop souvent, c'est ce qui est assis pour nous sous le genêt, les super personnes qu'on est de tout ce qu'on a accompli. Sous ce genêt-là, c'est un homme qui dit « Je suis pas meilleur que les autres. J'ai pas arrivé. » Puis vous savez ceci? Je vais bientôt prêcher sur l'orgueil. Le Seigneur, vraiment, par rapport à bientôt, mais c'est un homme qui est sans orgueil sous le genêt. Sans accomplissement de toutes ses affaires. Juste quelqu'un qui a besoin de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Matthieu 6, 34 et Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce qu'on peut pencher nos têtes un moment? Ce matin, là où tu es, si cette parole a parlé à ton cœur de quelque dimension que ce soit, j'aimerais juste que tu lèves ta main là où tu es ce matin. Merci. Merci beaucoup et merci. Merci. Je veux dire que là où tu t'es assis, ce matin, tu es assis sous un genêt à ta place. Et Dieu t'a préparé un gâteau pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a préparé. Ce matin, je voyais cette parole-là comme un gâteau que Dieu préparait pour toi. D'abord pour te dire, alléluia, qu'il était là pour te donner sa grâce, sa force, te soutenir, entreprendre à l'intérieur de ta vie et que tu peut-être arrêtes de porter tout ce que tu peux porter. Je veux faire quelque chose à ce moment ici. Je veux vraiment que tous nos yeux soient fermés et nos têtes soient penchées à cet instant. Je vais être le seul qui, dans ce lieu, a les yeux ouverts parce que je vais poser une question que je ne veux pas mettre personne à la jambe, mais en même temps, j'aimerais votre franchise. Peut-être que vous êtes dans ce lieu ce matin. Et sous ce genêt-là, c'est la déprime, c'est le désespoir, c'est la dépression peut-être même. Et ce matin, vous aimeriez qu'on puisse prier pour vous. J'aimerais juste que vous levez la main là où vous êtes sans gêne. Oui, merci. 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 Il y a plusieurs. Wow, merci. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? Merci beaucoup. On peut juste faire quelque chose ensemble ce matin. À moins que vous faites partie de la même famille ou autre. J'aimerais ça que juste tu puisses mettre ta main sur l'épaule de la personne qui est à côté de toi. Alors, qui que ce soit, juste que tu mettes la main sur l'épaule de la personne à côté de toi. Alléluia. Si votre mari est là, votre conjoint, faites rester ensemble si vous voulez. Soyez à l'aise. Seigneur, ce matin, chaque personne dans ce lieu, une main est posée sur leurs épaules aujourd'hui. Seigneur, je prie afin que tu touche leur vie et leur cœur aujourd'hui. Merci de ta fidélité, Seigneur, à leur égard, à notre égard. Et aujourd'hui, Seigneur, on veut juste se tenir devant toi ensemble. Je vais te prier, Seigneur, parce que tu connais qui on est. Et Seigneur, on veut être juste l'outil à laquelle tu nous demandes d'être. Seigneur, tu connais nos vies, les pressions, les choses qui peuvent être là. Chacun d'entre nous, tu connais nos cœurs. Tu connais, Seigneur, notre intimité. Tu sais ce qui prend place dans nos vies, dans nos maisons, Seigneur, dans nos familles, dans toutes les responsabilités à laquelle nous sommes. Et Seigneur, alors qu'on est ici, personne dans ce lieu ne soit seul aujourd'hui. Je prie que ta bonne main, Seigneur, soit sur eux. Alors qu'on est là, on est en train d'imposer les mains à nos frères et à nos sœurs, Seigneur. On est en train, Seigneur, d'imposer nos mains afin de déclarer, de vouloir le miracle et le prodige dans la vie, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs. Et Dieu, à travers qui tu es, on s'attend de qui tu es. On s'attend, Seigneur, de ta personne dans nos vies. Viens, Seigneur, relève, restaure. Je prie, Dieu, que toute anxiété, alléluia, que toute pression, que toute oppression, puisse quitter, Seigneur, nos frères et nos sœurs ce matin. Je prie que le centre évangélique de Saint-de-Shawinigan soit une église de repos, Seigneur. Une église où ta paix prend place, Seigneur, à l'intérieur des vies. Un endroit, Seigneur, où la dépression, Seigneur, les gens sont restaurés. Où les vies, Seigneur, sont restaurées. Où Dieu, tu déploies ta bonté. Un endroit, Seigneur, je prie, alléluia, que le centre évangélique de Shawinigan devienne le mont Sinaï. Seigneur, devienne, alléluia, le mont Horeb, l'endroit où tu nous appelles, Seigneur. L'endroit, alléluia, où tu délivres, où tu enlèves. Seigneur, toute chose, que la liberté de ton esprit prenne place dans nos vies. Seigneur, apprends-nous à nous placer devant toi. Seigneur, apprends-nous, oh Dieu, à être capable de juste se reposer sur toi, à te faire confiance, Seigneur, à l'intérieur de nos vies, à être capable de remettre entre tes mains. Seigneur, dans notre société, on veut tellement tout gérer, tout contrôler. Apprends-nous juste, Seigneur, à faire ce que tu nous demandes et à comprendre, Dieu, que le reste, Seigneur, Élie pouvait prêcher la parole, pouvait démontrer, alléluia, par le cos que ta puissance. Mais Seigneur, c'est les cœurs, c'est toi qui peux le faire. C'est toi qui pouvais changer ce peuple, Seigneur. Et il fallait que le peuple le veuille, le désire. Seigneur, ça n'avait rien à faire avec ce qui était bon ou pas bon. Élie, Seigneur, apprends-nous à se reposer. Je prie que chaque maison, chaque foyer, je prie pour les jeunes familles. Seigneur, dans les statistiques 30-50 ans, les femmes de cette église, je prie pour le repos. Enlève toute anxiété ce matin. Enlève toute crainte ce matin. Seigneur, et donne un repos, pas seulement physiquement, mais mentalement, dans nos pensées, dans nos cœurs. Je le prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Et apprends-nous que le sabbat, je ne veux pas vivre le sabbat. Seigneur, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Mais je veux le vivre, Dieu, à chaque jour, chaque matin, Seigneur. Alors peut-être qu'on n'aura pas bien dormi, mais que le matin, Seigneur, je peux me reposer en toi, que je peux remettre cette journée entre tes mains, Seigneur, de réaliser ta grâce dans ma vie, Seigneur, tes bienfaits, tes bontés à mon égard, Seigneur, à notre égard, à l'intérieur de nos vies, de les déclarer, Seigneur, que le soir, lorsqu'on se couche, à l'heure de toutes les responsabilités, d'avoir couru pour les enfants de part et d'autre, la crainte qui va nous avoir saisi, les situations compliquées au travail, à la maison, dans nos propres vies. Seigneur, je prie, alléluia, qu'on puisse compter tes bienfaits. Et savoir, Dieu, que tu es le Dieu qui veut nous donner le repos. Aide-nous comme un esprit de Dieu parle à nos cœurs. Et montre-nous comment on peut se reposer en toi. Et Seigneur, l'une de ces celles-là, c'est de venir devant toi, de prendre des moments, se décharger, trouver le repos en sachant que tu es le Dieu qui peut toutes choses. Seigneur, ce matin, que tout fardeau soit enlevé au nom de Jésus. Seigneur, garde-nous sur le chemin du retour, que ta bonne main soit sur nous, et que Dieu, tu puisses être avec nous dans toutes nos responsabilités et nos choses, et qu'à travers la parole de ce matin, tu parles à nos cœurs, pour aujourd'hui, pour demain, pour la semaine prochaine, et en toutes choses. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et Amen.